l'émission dédiée aux contes. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?», l'émission qui compte, en direct sur Radio Saféréol, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le quatrième dimanche du mois à 13h. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 octobre et nous approchons du 1er novembre. Dans la tradition celtique, il y avait seulement deux saisons. Il y avait une saison chaude et une saison froide. Et le passage de la saison chaude à la saison froide était marqué par trois jours de fêtes qui s'appelaient les fêtes de Samhain. Et on raconte que la nuit du 31 octobre, les portes de l'autre monde s'ouvraient. Et que les esprits, les fantômes, les sorcières, les squelettes pouvaient passer du monde des morts au monde des vivants. Et pour les guider, on allumait devant les maisons des lumières. Et la tradition de Samhain, qui s'est perpétuée en Écosse et en Irlande, a été emportée par les émigrés lorsqu'ils sont partis vers le Nouveau Monde. Et ce serait l'origine des fêtes d'Halloween. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de squelettes, de fantômes et de revenants. Et pour commencer, une histoire qui nous vient d'Irlande, que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle « Les contes du cimetière » de Martin Waddle et Tony Ross aux éditions Gauthier-Langros. Il y a longtemps, au fin fond de la lande, il y avait un très vieux cimetière. Et ce cimetière était gardé par un squelette qui s'appelait Jouan le Froid. Les habitants du village, parfois, la nuit, entendaient des grincements et des hurlements lugubres. Alors, ils se barricadaient dans leur maison, terrorisés. Ils craignaient que le squelette ne vienne frapper à leur porte et demande à se réchauffer devant la cheminée. Mais, heureusement, Jouan sortait rarement de son cimetière. Et à une des extrémités du village, il y avait une ferme. Là vivait un fermier qui s'appelait Mériadec et sa femme. Ce fermier au village, on l'avait surnommé Mériadec le Mauvais. Parce que jamais il ne tenait ses engagements. Il cherchait toujours à s'enrichir sur le dos des autres. Et plus personne ne voulait travailler pour lui parce qu'il se débrouillait toujours pour ne pas payer ses ouvriers. Et voilà qu'un jour est arrivé au village un petit gars tout maigre. Un petit gars qui n'avait pas de famille, qui n'avait personne pour s'occuper de lui, et qui venait proposer ses bras en échange d'un bol de bonne soupe bien chaude. Il s'appelait le petit Pat. Ah, malheureusement pour lui, le petit Pat est arrivé du mauvais côté du village. La première porte à laquelle il a frappé, c'était celle de Mériadec le Mauvais. Mais bien sûr, lui, il ne savait pas. Ah, il a dit, bonjour monsieur, ben moi voilà, je suis prêt à travailler, j'ai pas l'air bien costaud, mais en fait, vous savez, je peux travailler dur pour un bol de soupe. Oh, Mériadec, tout de suite, il a flairé la bonne affaire, il lui a dit, toi, tu voudrais travailler pour un bol de soupe. Ben ouais, j'ai quelque chose à te proposer. Ah, il a emmené le petit Pat jusqu'à un de ses champs, un grand champ. Il lui a montré un tas de pierres, il lui a dit, avec ces pierres, tu me construis un mur tout autour du champ. Hein, si t'as fini avant le coucher du soleil, ben tu l'auras ton bol de soupe. Le petit Pat, il n'a pas discuté, il s'est mis au travail tout de suite. Ah, c'était un très gros travail. Les pierres étaient lourdes. Hein, lui, il s'est presque pas arrêté. Et il n'a rien mangé, il n'a rien bu toute la journée. De temps en temps, Mériadec venait voir où il en était et il l'houspillait pour qu'il aille plus vite. Hein, petit Pat, il a tellement bien travaillé qu'à la fin de la journée, le mur était monté. Alors tout joyeux, il est revenu vers la ferme en pensant au bon bol de soupe qu'il allait déguster. Ouais, mais malheureusement, quand il est arrivé à la ferme, le feu était éteint. Il n'y avait pas du tout de soupe en train de cuire. Alors il a dit, ben, et mon bol de soupe alors ? Dit Mériadec, je vais demander à ma femme. Hein, tous les deux, ils ont ricané, Mériadec et sa femme, ils ont ricané dans leur coin. Puis Mériadec est revenu, il a dit au petit Pat, « Ah, je suis désolé, tu sais, ma femme, elle peut pas te faire cuire la soupe. On n'a pas de bois pour le feu. » Bah, ça fait rien, dit le petit pâtre. Je vais en chercher, là, juste derrière. Oh non, 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 mon bois n'est pas sec. Non, mais par contre, il y aura une solution. Si tu as le courage d'aller jusqu'au vieux cimetière, là-haut, tu déterres quelques cercueils, tu débites les planches et tu ramènes tout ça. Je te donne une brouette et puis une bêche. Eh bien sûr, il faut pas que tu aies peur du cimetière et des habitants des cercueils. Oh, moi, j'ai peur de rien du moment que j'ai mon bol de soupe, a dit le petit Pat. Ah, il a pris la brouette et il a mis la bêche et le voilà parti vers le vieux cimetière. Et dans la nuit, on a entendu « Coui, 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 coui ». C'était la roue de la brouette qui grinçait. Ah, Meriadec s'est frotté les mains, il a dit à sa femme « Bah ça y est, nous en voilà débarrassés, jamais joint le froid le laissera revenir ». Le petit Pat est arrivé au cimetière et il a passé la grille. Puis il a regardé et il a commencé à déterrer un cercueil. Et soudain, il a senti quelque chose de froid dans son dos. C'était Jouan le squelette, enveloppé dans un grand manteau noir qui se dressait derrière lui. Jouan a tapé sur l'épaule du petit Pat. Le petit Pat s'est retourné. Il ne voyait rien dans le noir. Il dit « Qui est là ?» Alors Jouan a enlevé sa capuche. Eh, pour que Pat puisse voir son crâne luisant et ses orbites creuses à la lueur de la lune. « Je suis Jouan le froid !»« Ah, bah enchanté !» J'ai pris froid, rester sous la lune. « Moi, je suis le petit Pat !»«
Tu n'as pas peur de moi ?»
« Oh non, moi, je n'ai peur de rien. Je mange mon bol de soupe bien chaude.
Oh, »« Un bol de soupe bien chaude, hein, j'ai mis le squelette. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un bol de soupe ?»«
Bah, si tu veux, tu m'aides. Tu m'aides à déterrer un cercueil, puis à débiter les planches, à charger la brouette. Et après, quand la soupe est chaude, moi, je te ramène un bol. Je suis à la ferme, là-bas, la dernière du village. »
Ah, chez Meriadec. Eh ben d'accord.
Avec l'aide de Jouan, ça a été vite fait. Ils ont débité les planches du cercueil, petit Pat a chargé la brouette, et il est reparti. Coui, 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 jusqu'à la ferme de Meriadec. Quand le fermier et sa femme ont entendu le grincement de la brouette, elles se sont dit, mais c'est pas possible. Mais Jouan l'a laissé revenir. Mais il faut qu'on trouve quelque chose pour s'en débarrasser. Envoyons-le une deuxième fois au cimetière, a dit la femme de Meriadec. Jamais Jouan le laissera revenir une deuxième fois. Un petit Pat est arrivé tout content avec sa brouette. Il a déchargé le bois, il a allumé le feu. Puis il est resté à se chauffer à côté du feu. Il a dit voilà, et maintenant la soupe. Ouais, dit Meriadec, tu sais, ma femme, elle te ferait bien de la soupe, seulement voilà. Elle a pas de viande pour mettre dedans. Eh, pas de viande, pas de soupe. Ah, ben je peux aller tuer le vieux coq, là, qui est derrière. Ah non, 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 j'ai besoin de mon coq, mais j'ai une meilleure idée. Si tu es prêt à retourner au cimetière, là-bas, il y a plein d'os qui servent à rien. Tu m'en ramènes un ou deux. Bon, bah d'accord, j'y vais. Et voilà, le petit Pat reparti. Meriadec était content. Il s'est dit, ça y est, cette fois, on en est débarrassé. Le petit Pat est arrivé au cimetière. Jouan a surgi, il a dit, où est ma soupe ? Ah, bah, y a pas de viande, alors pas de viande, pas de soupe, mais je vais prendre quelques os par là, ils servent à rien.
Ah non, a dit Jouan, ces os, ce sont les os de mes amis. Tu peux pas les mettre dans la soupe.
Ben, qu'est-ce qu'on fait alors, a dit le petit Pat. S'il n'y a pas d'os, ben, il n'y a pas de soupe.
Eh ben, je te prête un de mes tibias.
Et Jouan a enlevé un de son tibia droit et l'a donné au petit Pat. Ah ben, ça c'est chic alors. Bon, ben, écoute, dès que la soupe est prête, moi je reviens avec un bol pour toi. Ah, le petit Pat est revenu aussi vite qu'il pouvait jusqu'à la ferme de Meriadec.
Ben, il faudrait peut-être lui donner son bol de soupe alors, dit la fermière.
Ah non. « Pas question, » a dit le fermier. La fermière a préparé la soupe avec des carottes, des pommes de terre, du chou, et puis le petit bien bien lavé du fantôme. Et le petit pâté se frottait à la cheminée. La fermière a mis la soupe à cuire. Ça s'est mis à sentir bon. Quand la soupe a été presque cuite, le fermier a sorti deux écuelles et deux cuillères. Une pour ma chère femme et une pour moi, il a dit.
Bah et moi, le petit pâte ? Moi j'ai bien gagné ma soupe, hein ? Qu'est-ce que j'ai travaillé ?
Ouais, mais t'as frappé à la mauvaise porte, mon gars. Tu aurais dû savoir que moi, je tiens jamais mes promesses. Et Myriadec a attrapé le petit pâte par le col et il l'a jeté dehors. Puis il a fermé la porte. Et le garçon a eu beau crier, tempêter, hurler, il a eu beau frapper contre la porte, Myriadec ne lui a pas ouvert. Il s'est attablé avec sa femme. Là, ils ont commencé à déguster la soupe. Mais à ce moment-là, il y a un grand vent qui s'est levé. Et on a entendu tac, 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 tac. C'était Jouan le froid qui était sorti de son cimetière pour réclamer son bol de soupe. Et comme il n'y avait plus qu'un seul tibia, il était obligé de sautiller sur une jambe. Et il a traversé tout le village. Il est arrivé à la ferme de Myriadec. Il a vu le petit pâte qui était assis et qui pleurait sur le seuil de la porte. Il lui a raconté ce qui s'était passé. Pardon. Alors le fantôme, d'un coup de son poing osseux, a défoncé la porte. Le fermier et sa femme, ils ne savaient plus où était la sortie. Ils étaient terrorisés par Jouan. Ils se sont mis à courir dans tous les sens. Et poursuivis par le fantôme, ils ont fini par sortir par la fenêtre. Et ils ont couru. Et ils ont tant couru que l'histoire raconte qu'ils en sont morts. Jouan, lui, il est revenu. Pardon. Et le petit pâte lui a rempli un bol de soupe. Et il a réchauffé son vieux squelette de squelette devant la cheminée. Et ils ont dégusté la soupe bien chaude. Et puis Jouan est retourné dans son cimetière. Le petit pâte, lui, il est resté dans la ferme. Et l'histoire raconte que tous les jours, il prépare une bonne soupe de légumes et qu'il en apporte un bol au cimetière pour son ami, Jouan le froid, qui entre-temps a récupéré son tibia. Et voilà comment ça s'est passé dans cette histoire. Alors une petite pause musicale avec l'une de la tordue.
Cratères,
ô vieille lune,
sage femme de l'univers,
s'il en est une,
tu règnes sur le cours des mers
et sur Neptune.
Que caches-tu dans tes arrières?
Une fortune.
Méfie-toi de ceux qui plantèrent
dedans tes dunes
leurs oriflammes guerrières,
bordez la plume,
la vanité de vers de terre,
inopportune.
De ces gros pieds buveurs de bière,
sans gêne aucune.
Que suis que dit con comme la lune,
aille en enfer.
Et si à chacun sa chacune,
c'est toi que je préfère.
J'aime à la nuit et sans costume,
de bain de mer.
Nager dans tes reflets d'écume,
dans ta lumière.
Comme si je volais dans les plumes
d'un être cher,
fait d'une féerie de lagunes,
de cirque d'hiver.
Brûlant d'espoir de boire tes brumes
qui désaltère
le nectar du vin que l'on hume,
quand vient brumaire.
Mon ami déambule en fune,
nombule délétère.
que le champ libre comme l'air d'une
rose éphémère,
en volute dansant qui fume
dans les airs.
À toi, muse entre toutes, ô lune, te soit offert. Chacun sa chacune, c'est toi que je préfère.
Maintenant, une histoire irlandaise dont j'ai trouvé une version racontée par le grand conteur Mike Burns dans un album édité par les éditions québécoises Planète Rebelle. Il était une fois un chasseur qui vivait seul dans sa maison au fond des bois. C'était le chasseur. Jamais il ne rentrait bredouille, jamais il ne ratait ses proies. Et voilà qu'un matin, comme d'habitude, il est parti à la chasse. Et ce matin-là, non, rien n'était comme d'habitude. Les bois étaient étrangement silencieux. Pas d'oiseaux qui chantent, pas de branches qui craquent. Et soudain, devant lui, dans la clairière, le chasseur a vu une jeune femme. Elle était vêtue d'une tunique de feuilles qui laissait entrevoir sa poitrine ronde et ses jambes fuselées. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux brillants comme des étoiles. Le cœur du chasseur s'est mis à battre. La jeune femme lui a souri. Le cœur du chasseur a battu encore plus fort. Et puis elle s'est avancée vers lui. Et lui s'est avancé vers elle. Et ils ont été dans les bras l'un de l'autre. Le coup de foudre. Le chasseur a ramené la jeune femme jusqu'à sa maison. Et à partir de là, ils ont vécu heureux, tous les deux, dans la maison au fond des bois. Et parfois la nuit, le chasseur se réveillait. Et de la main, il tâtait les cheveux soyeux de sa compagne. Il entendait son souffle. Et il se disait, ouais, c'est ça le bonheur. Mais une nuit, le chasseur se réveillait. Et la place à côté de lui était vide. Elle n'était pas là. Et il s'est demandé, où est-ce qu'elle était ? Où est-ce qu'elle avait pu partir comme ça, en pleine nuit ? Elle est restée à se tourner et à se retourner. Et puis, juste avant l'aube, il a entendu des pas légers dehors, la porte qui grinçait. Et puis, ses pas sur le plancher, elle s'est glissée sous la couverture, à côté de lui. Il restait les yeux grands ouverts dans le noir. Il n'a rien dit. Et quand le jour s'est levé, elle était là, à côté de lui, sa douce, sa bien-aimée, avec ses yeux brillants comme des étoiles. Elle l'a prise dans ses bras. À nouveau, il était réchauffé, il était heureux. La journée s'est passée comme d'habitude. Le soir, ils se sont couchés et dans la nuit, le chasseur s'est réveillé. Elle n'était pas là. Il n'y avait personne à côté de lui dans le lit. Et il s'est tourmenté, il s'est demandé où, mais où est-ce qu'elle est ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et comme la veille, juste avant l'aube, elle a entendu des pas légers dehors, puis la porte qui grinçait et ses pas sur le plancher. Et elle s'est glissée dans le lit à côté de lui. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Et la troisième nuit, ils se sont couchés. Le chasseur a fait semblant de dormir, mais il ne dormait pas. Il avait les yeux grands ouverts dans le noir. Et juste avant minuit, il a entendu se lever. Et puis la porte qui s'ouvrait. Et la clarté de la lune, il l'a vu sortir. Alors lui, il s'est dépêché. Il a sauté dans ses vêtements. Lui aussi, il est sorti. Et c'était un bon chasseur. Il n'a eu aucun mal à la suivre, sans qu'elle l'entende. Il ne faisait aucun bruit. Pas une branche ne craquait sous ses pas. Elle l'a vu qui marchait vite. Puis à un moment, elle a disparu. Le chasseur s'est approché. Et là, au centre de la clairière où ils s'étaient rencontrés, la clairière où ils s'étaient vus pour la première fois, éclairée par la lune, non, c'était plus sa douce, sa bien-aimée, non. C'était une horrible sorcière, toute noire, toute crochue. Le chasseur a attrapé une pierre à aide de toutes ses forces. Il l'a lancée sur cette horrible sorcière. La pierre a atteint la sorcière au mollet. Elle a poussé à hurlements, à glacer le sang, à hurlements qui a résonné dans toute la forêt. Le chasseur terrifié s'est mis à courir, il a couru sans regarder derrière lui, il a couru jusqu'à sa maison, il est rentré, il s'est glissé sous les draps, il tremblait de tout son corps, il tremblait, puis il s'est calmé, il ne savait plus, et juste avant l'aube, il a entendu des pas légers dehors, puis la porte qui s'ouvrait, des pas sur le plancher. Elle s'est glissée dans le lit à côté de lui. Mais il ne savait plus. Est-ce que c'était sa douce, sa bien-aimée? Ou est-ce que c'était l'horrible sorcière? Elle n'osait pas tendre la main pour toucher la forme à côté de lui. Elle ne savait plus. Enfin, le jour s'est levé. Et là, il l'a vue. Il l'a vue avec ses yeux brillants comme des étoiles, avec ses longs cheveux. Il a vu qu'il lui souriait, il l'a prise dans ses bras. Et tout était comme avant. Puis elle s'est levée pour allumer le feu, elle a soufflé sur les braises. Et dans le mouvement, sa jupe a remonté un peu. Et sur son mollet, il a vu la trace de la pierre qu'il avait lancée la veille sur l'horrible sorcière. Alors, à votre avis, que doit faire le chasseur ? Est-ce qu'il doit en parler avec sa femme? Est-ce qu'il doit la chasser comme une horrible sorcière? Ou est-ce qu'il doit ne rien dire et continuer à vivre avec elle? Elle qui est l'amour de sa vie. Eh bien, je ne sais pas ce que vous répondrez, mais en tout cas, le chasseur n'a rien dit. Et il a vécu heureux. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime tout entier, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Donc, je vais vous raconter une dernière histoire. Une histoire qui parle des lavandières de la nuit. Ces femmes damnées qui viennent la nuit pour laver le linge des morts au lavoir. Elle était une fois une jeune femme qui vivait avec son mari qui était bûcheron et leurs 4 enfants dans une petite ferme. Elle s'appelait Marie Lesouark. La pauvre, elle avait beaucoup de travail parce que le jour, pour gagner quelques sous, elle louait ses bras dans les fermes des environs. Et le soir, elle était obligée de faire tout son ménage, la lessive. Et voilà, c'était un samedi. En rentrant chez elle, elle s'est dit « Demain, c'est dimanche, il faut que je lave les chemises de mon homme et puis des enfants » pour qu'elle soit propre pour la messe. Ouais, c'est une belle nuit, c'est la nuit de pleine lune, j'ai le temps de les laver, de les faire sécher. Alors elle est rentrée, elle a attrapé son linge, et puis elle est allée jusqu'au lavoir. Et là, elle s'est mise à frotter, à battre, et le bruit de son battoir résonnait dans tout le silence de la nuit. Mais tout d'un coup, à côté d'elle, il y avait une femme. Une femme qui était toute vêtue de blanc et qui avait un gros ballot de linge sur la tête, qui lui a dit « Mais tu laves ton linge bien tard, Marie Lesouark. » Elle s'est dit « Tiens, elle connaît mon nom. » Et elle a dit « Ben oui, c'est que la journée, moi, je suis obligée de travailler ailleurs pour gagner des sous. Et tu vois, il est plus de 10h du soir, j'ai pas encore soupé. Et j'en ai pas fini. » L'autre lui a dit, bah écoute, si tu veux, je te lave le linge, moi. Pour moi, c'est pas pressé le mien. Je le ferai plus tard. Je te lave et toi, tu rentres chez toi, tu soupes et t'en seras pas à la troisième bouchée que je te rapporterai ton linge tout blanc, tout propre. Oh, Marie Lesouark, elle a remercié. Elle a trouvé que cette femme était vraiment gentille. Et elle s'est dépêchée de lui laisser ses chemises et puis de rentrer chez elle. Et son mari, en la voyant revenir, il lui dit, mais te voilà déjà? Mais elle racontait la rencontre qu'elle avait faite de cette femme, tellement aimable. Marie est devenue un peu pâle. Il lui a dit, mais En fait, t'es complètement folle. T'es tombée sur une manoisenose, une femme de la nuit. Elle veut sûrement, est sûrement envoyée par le diable pour récupérer ton âme ou celle de nos enfants. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire, dit la pauvre Marie qui était complètement affolée. Bah écoute, voilà. Marie m'a expliqué, elle a fait tout ce qu'il lui disait. D'abord, il fallait balayer et puis mettre le balai la tête en bas. Ensuite, bien verrouiller la porte, accrocher le trépied à un clou et se laver les mains dans l'eau de pluie qui était dans le seau. Et puis vite aller au lit. Marie, elle a tout fait comme ça. Le mari, lui aussi, s'est lavé les mains dans l'eau du seau. Puis il a versé l'eau sur le feu, parce qu'il a éteint. Et ensuite, il s'est vite glissé dans le lit à côté de sa femme. Ouais, c'était juste à temps, parce qu'à ce moment, on a entendu frapper. « Eh, Marie Lézoir, que je te rapporte ton linge. Voilà tes chemises toutes blanches, toutes propres. » Le couple n'a rien dit. Ils étaient terrorisés, terrés sous leur couverture. « Marie Lézoir, Marie Lézoir !» La femme a frappé 3 fois. Quand elle a vu que personne ne répondait, soudain, il y a un vent terrible qui s'est levé. C'était la colère de la lavandière de la nuit qui tournait autour de la maison. « Eh bien, puisque Chrétien ne veut m'ouvrir, trépied, ouvre-moi !»« Je peux pas !» bredouillait le trépied. « Je suis pendu à un clou !»« Eh bien, puisque trépied ne peut m'ouvrir, balai, glisse, viens m'ouvrir !» « Je ne peux pas, je suis la tête en bas. » Et le vent a soufflé plus fort. « Alors toi, eau de la pluie, viens jusqu'à moi, glisse, ouvre-moi. »« Je ne peux pas, on m'a versé sur le feu. » Et tout à coup, le vent s'est arrêté. Et Marie a entendu. Ah, « Tu as de la chance, Marie Lézoirc. » d'avoir un mari qui a pu te faire la leçon. Puis ça a été le silence. Le silence jusqu'au jour. Alors Marie s'est levée. Elle a couru jusqu'au lavoir. Et là, elle a trouvé ses chemises, qui étaient toutes blanches, toutes propres. Mais avant de les donner à son mari, à ses enfants, on raconte qu'elle les a fait bénir par le curé. On n'est jamais trop prudent.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? L'émission mensuelle dédiée aux contes, en direct sur Radio Saféréole, le 4e mardi du mois à 11h, et retransmis le 4e dimanche du mois à 13h. Notre générique, c'est toujours le très beau CD de Valérie Loumer, Fait les cannes. Merci et au mois prochain.